France Culture.
Et on ne se quitte pas sans un nouveau rendez-vous avec l'actualité de ce samedi 4 octobre. Marie-Hélène Duvigneau, bonne journée Marie-Hélène.
Bonne journée Nicolas, bonjour à tous. Le Hamas prêt à libérer les otages israéliens retenus à Gaza dans le cadre de la proposition de cessez-le-feu de Donald Trump, un cessez-le-feu qui n'est pas encore d'actualité ce matin. Une femme élue à la tête du Parti libéral japonais au pouvoir, elle devrait à ce titre devenir la première femme premier ministre du pays après une campagne anti-immigration. Et puis, près de 9 entreprises françaises sur 10 confrontées à des retards de paiement, c'est ce qui ressort de la dernière étude menée par la compagnie d'assurance crédit Coface. La fin de la guerre à Gaza n'est pas pour tout de suite. La défense civile palestinienne fait état de bombardements israéliens ce matin. Après la réponse du Hamas à son plan de paix, Donald Trump a pourtant demandé hier soir à Israël de les arrêter. Le Hamas s'est dit prêt à des négociations immédiates en vue de la libération des otages israéliens retenus à Gaza. À Jérusalem, Amira Swilem.
Il n'avait pas le luxe de dire non, mais il ne pouvait pas dire oui non plus. En direct sur Al Jazeera, Moussa Abou Marzouk, membre du bureau politique du Hamas, annonce avoir accepté la libération des otages israéliens afin de mettre fin aux souffrances des Palestiniens de Gaza. Le Hamas attend de ce geste la reprise immédiate de l'approvisionnement de l'enclave en nourriture, médicaments et produits de première nécessité. Le Hamas a donc décidé de donner des gages tout en annonçant vouloir négocier certains points. Parmi eux, la transition politique. Le représentant du Hamas dit vouloir remettre le pouvoir à un conseil composé de personnalités palestiniennes et non pas à un organe international, comme proposé par Donald Trump. Quant à la démilitarisation de l'enclave palestinienne, Moussa Abou Marzouk a soutenu qu'elle ne pouvait intervenir qu'une fois que l'occupation israélienne aura pris fin. Affaibli et pressé par ses alliés dont le Qatar d'accepter ce plan, le Hamas a donc décidé de libérer les otages israéliens sans être sûr d'obtenir la moindre contrepartie.
Reporters sans frontières réclame une enquête rapide et indépendante après la mort en Ukraine hier d'un photojournaliste français, Anthony Lalican. Il a été fauché par une attaque de drone russe, selon Emmanuel Macron. C'est le quatrième journaliste français tué depuis le début de la guerre, mais le premier tué par un drone. Un journaliste ukrainien a été également blessé dans cette attaque. Sanae Takaichi, élu ce matin à la tête du parti au pouvoir au Japon, le Parti libéral-démocrate, devrait à ce titre devenir la première femme premier ministre du pays. Un événement qui n'est pas pour autant un choix féministe. Nationaliste radicale, elle s'est positionnée comme une tenante de la ligne dure et notamment adopté des positions fermes sur l'immigration et les touristes étrangers. Deux sujets apparus comme des enjeux clés dans la course à la tête du parti. Karine Nishimura.
Non aux immigrés, les étrangers sont des délinquants, rentrez chez vous, on ne compte plus sur les réseaux sociaux en japonais le nombre de vidéos et de diatribes contre les étrangers. Et les 5 candidats pour remplacer le Premier ministre Shigeru Ishiba ont tous une phrase en commun. Traduction, je suis contre les immigrés. Dans l'ambiance xénophobe actuelle, alimentée par le populiste parti d'extrême droite Sanseto, très influent auprès des jeunes sur YouTube ou TikTok, il est impossible pour un prétendant à la fonction de Premier ministre de faire campagne en prônant une quelconque forme d'immigration, même pour des raisons économiques ou face au vieillissement démographique. Interrogé sur la définition officielle du terme immigré et sur le nombre d'immigrés déjà présents au Japon, le porte-parole du gouvernement est très embêté pour répondre.
Pour la définition du mot immigré et leur nombre actuellement au Japon, demandez au ministère de la Justice.
La politique menée à la demande des entreprises pour accueillir des travailleurs étrangers dans les secteurs en tension rencontre désormais une telle opposition de la part de la population qu'un programme de jumelage de 4 villes japonaises avec 4 pays africains a dû être abandonné en raison de la peur amplifiée sur les réseaux sociaux de voir arriver des immigrés africains.
Et Karine Nishimura à Tokyo. Sébastien Lecornu renonce au 49-3 et redonne ainsi la main au Parlement sur le budget, un geste salué par les oppositions mais jugé insuffisant pour écarter les menaces de censure. Le PS comme le RN, qui détiennent les clés de la survie du Premier ministre, indiquent attendre sa déclaration de politique générale pour se prononcer sur la question. Elle devrait avoir lieu mardi après-midi. Entre-temps, Sébastien Lecornu aura constitué son gouvernement, probablement ce week-end. LR déterminera ce soir sa participation ou non à ce gouvernement. Les retards de paiement entre entreprises explosent en France. Selon une enquête de la compagnie d'assurance crédit Coface, près de 9 entreprises sur 10 constatent des délais de paiement de 50 jours en moyenne. Le phénomène touche tous les secteurs et affecte particulièrement les petites entreprises. Annabelle Grelier.
Les TPE déclarent 44 jours de retard de paiement en moyenne, contre 38 pour les PME et 36 pour les ETI, selon la dernière étude menée par la compagnie d'assurance crédit Coface. Cette détérioration se traduit par une hausse continue des défaillances d'entreprises, avec plus de 42 000 faillites depuis le début de l'année 2025. Un niveau record qui dépasse de loin celui d'avant Covid. Autre chiffre inquiétant, le montant des dettes des fournisseurs. Il s'élève à 3,4 milliards d'euros sur les 8 premiers mois de l'année. Là encore, un record depuis 2011 et la grande crise financière. Selon le médiateur des entreprises auprès du ministère de l'Économie, les retards de paiement entre entreprises poussent chaque jour une quarantaine de PME à mettre la clé sous la porte. Selon la Banque de France, le risque de défaut en serait augmenté de 25%, car les retards de paiement fragilisent particulièrement les petites et moyennes entreprises aux trésoreries déjà fragiles. Enfin, dernier indicateur inquiétant, si les délais de paiement sont souvent dus à de mauvaises pratiques, 42% des entreprises attribuent aujourd'hui ces retards aux difficultés financières de leurs clients, révélant un cercle vicieux qui fragilise l'ensemble du tissu économique. Signe que le sujet est sérieux, pour les mauvais payeurs, la loi prévoit des amendes administratives pouvant aller jusqu'à 2 millions d'euros avec publication de la peine sur le site de la répression des fraudes. Ainsi, on y apprend que SFR a été deux fois sanctionné ou que Darty a écopé récemment d'une amende d'1,5 million d'euros. Pas assez dissuasif, pensait l'ex-premier ministre François Bayrou. Il avait annoncé vouloir durcir ses sanctions en imposant aux entreprises retardataires une pénalité financière pouvant aller jusqu'à 1% du chiffre d'affaires. Le projet de loi pourrait finir aux oubliettes.
Le temps aujourd'hui instable avec des averses sur pratiquement tout le pays et du vent au nord. Seul le pourtour méditerranéen restera au sec et au soleil toute la journée. Les températures maximales, 15 à 20 degrés sur la moitié nord, 20 à 24 au sud et même 25 à 29 près de la Méditerranée.